Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Hello.
Alors messieurs, nous sommes toujours en distanciel, hein, c'est comme ça qu'on dit désormais dans le jargon. Je crois que ça va peut-être même rentrer dans le Larousse. nous sommes toujours confinés pour cause de Covid-19, puisque nous sommes fin novembre 2020. Mais nous pouvons toujours enregistrer cette émission. Pourquoi ? Eh bien, grâce à vous, grâce aux personnes qui nous soutiennent sur notre page Patreon. Ça y est, on a enfin passé le stade nommé fin du game. Donc, est-ce qu'on est dans notre forme finale ? Je ne sais pas. C'est possible, hein, comme dans Dragon Ball, qu'il y ait encore une surprise après, mais on commence à avoir une puissance...
Comme dans Dragon Ball, on ne la connaît pas. Tu vois, c'est, voilà, ça sera la surprise pour nous aussi, en fait.
Ouais, ça dépend du scénario. S'il y a besoin, tu peux toujours rencontrer un Namek random qui révèle ton potentiel, comme ils disent dans le jargon.
Ou une fusion, quelque chose. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous permettre d'atteindre ce stade. Ce stade qui nous permettra, eh bien, vraiment, d'aborder d'autres jeux. Alors moi, je peux mentionner quoi ? Je peux mentionner peut-être Mass Effect. C'est quelque chose qui parle aux gens qui écoutent Fin du Game. Voilà, peut-être que ça pourra être une des prochaines carottes. Ça pourrait être, je ne sais pas...
Après Nier Automata.
Ah bah, on refera aussi Nier Automata, en fait, toujours, on l'a pas fait.
On continue alors.
Nier Automata, peut-être que ça arrivera.
Non mais ouais, l'idée c'est de pouvoir parler de jeux un peu plus anciens, parce que ça prend forcément pas mal de temps. Bon, là, Mass Effect, c'est pratique, parce qu'ils vont annoncer ils ont annoncé d'ailleurs la re-trilogie, mais voilà, il y a tout un tas d'anciens jeux que deux personnes du podcast, un peu plus jeunes que la troisième, je ne les citerai pas, n'ont pas fait, parce qu'elles étaient à peine nées, et c'est des jeux dont on pourra peut-être parler un jour ou l'autre.
Bah, déjà, Mass Effect, ce sera l'occasion de le refaire.
très bien. Alors, donc, merci beaucoup de nous rejoindre sur Patreon. On remercie également Sœur d'édition. Vous connaissez la chanson, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que,
parce que pas de nouvelles sorties, en tout cas par rapport à l'épisode précédent. C'est toujours les deux bouquins estampillés Disney, déjà sur l'âge d'or de Disney qui s'étend. Alors, j'ai oublié le début, je crois que c'est Basile et des trucs comme ça qui vont jusqu'à
c'est
le
Basile,
roi lion
détective
et...
privé, c'est pas Basile,
voilà.
Et des trucs,
Basile,
c'est ça.
Détective
trucs comme
privé.
Ça.
Alors, je n'étais pas né au début de l'âge d'or, mais à la fin, je l'étais, puisqu'il y avait le royaume, Pocahontas, bref, tous ces grands classiques dont je pourrais vous chanter les chansons par cœur au détour de la rivière.
Ah bah voilà,
mais je ne vais pas
le
faire.
Patreon.
Bah ouais.
On chante des chansons Disney à la place du générique, c'est pas mal.
Eh ben écoutez, très bien, il va falloir que Disney nous sponsorise bientôt. Sœur d'édition, il y a aussi le bouquin sur Dune, et l'info à garder en tête, c'est que vous pouvez toujours commander directement sur leur site, au lieu de passer par... je ne sais pas, des services de livraison, sachant que déjà, ça les permet de soutenir un petit peu Sœur pendant cette période un peu particulière pour les librairies. Et puis, ce qui est, on peut le dire, les livraisons Sœur qui sont souvent applaudies par les gens. Ils font quand même un très bon taf là-dessus. C'est vrai que c'est quand même plaisant de recevoir le collier, le livre qui est bien emballé, tout est bien protégé. Franchement, là-dessus, ils font vraiment les choses très proprement. Donc voilà, il n'y a aucune raison de passer par un autre service que directement sur le site. Donc voilà, on vous renvoie sur leur Twitter, sur leur site pour voir tout ce qui sort. Et puis on les embrasse évidemment au passage. Aujourd'hui, on va parler de Hellblade. Ce sera juste après une petite musique que cette fois-ci c'est Maxime qui a sélectionné. Qu'est-ce qu'on va écouter, hein, Maxime ? De quoi va s'agir-t-il ?
Mais comme je vous l'ai très bien décrit la dernière fois, c'est un passage de fin. Alors est-ce que je spoil déjà ? Non. Est-ce que techniquement on spoilerait pas après la musique ? Mais bref, vers la fin, voilà, il y a des voix.
Jamais dit le moment où on spoil pour de vrai.
Parce que ça spoil dans cette émission déjà. Apparemment, c'est
ouais,
un truc.
Ouais.
Okay. Pareil, ouais.
Sûr.
Très bien, et ben on se retrouve juste après pour un nouvel épisode de Fin du Game. Yeah. Hellblade Senua's Sacrifice, c'est le vrai nom du jeu, je ne l'avais pas précisé dans l'intro, me l'a fait remarquer, je me suis fait taper sur les doigts, donc voilà, c'est le vrai titre du jeu. C'est sorti le 8 août 2017, 8 août aussi une sainte date puisque c'est l'anniversaire de notre cher Benoît. C'est sorti sur PC et PS4, c'est sorti un an après sur Xbox One puisque oui, il y avait une exclusivité temporaire sur console pour PlayStation, ce qui est assez amusant à noter quand on connaît un petit peu le destin du studio par la suite. Et puis c'est évidemment sorti sur cette bonne Switch par la suite, même si je crois que le portage est pas incroyable puisque bon, on en parlera évidemment, mais Hellblade, c'est un jeu qui profite beaucoup de son esthétique et de ses finitions visuelles. Et malheureusement, la petite console de Nintendo ne peut pas forcément se hisser au niveau de ses camarades un peu plus costauds, console de salon et PC. C'est un jeu qui est développé par Ninja Theory. C'est leur premier jeu indépendant. Mais c'est pas leur premier jeu parce que c'est un studio qu'en fait qui est déjà là depuis 2000 et qui fricotait avec des éditeurs AAA avant.
Ouais, en fait Ninja Theory, on a surtout entendu parler d'eux au lancement de la PlayStation 3 puisque du coup ils faisaient partie du line-up de lancement avec Heavenly Sword, qui était un jeu d'action un peu particulier parce qu'en fait il utilisait la fameuse manette 6 axes, donc la reconnaissance de mouvement de la manette de la PS3 pour faire certains combos parce que ça se présente comme une espèce de Devil May Cry-like. Et en fait, ils ont toujours eu ce mix dans leur jeu d'action et de narration. C'est vraiment un peu leur marque de fabrique. Ça s'est vraiment confirmé avec un jeu qui est sorti en 2010 qui s'appelait Enslaved, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque parce qu'il était avec, et donc c'est là où vous m'aidez, Andy Serkis, c'est ça ?
Oui, l'acteur oui. Andy Serkis. Ouais,
j'arrête pas de dire Nicolas Serkis à chaque fois, et donc c'est pas lui, il n'y a pas un Doshin dans
peut-être
le
un jour, peut-être, ah, peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas.
Mais non,
pas
ouais, c'était Andy Serkis, donc l'acteur qui avait, qui avait joué donc Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui jouait un des personnages de Enslaved, qui reprenait en fait voilà, des phases de plateforme assez classiques avec toute une narration autour de la légende du roi singe, etc. Ensuite, en 2013, ils ont sorti le fameux reboot de Devil May Cry qui s'appelait DMC Devil May Cry, qui a plutôt bien fonctionné puisqu'ils ont eu l'occasion de faire une extension, le jeu était ressorti en édition spéciale sur les nouvelles consoles, etc. Et ensuite, ils sont passés par une autre case qui était Disney Infinity. Alors, ça change complètement d'ambiance, mais c'est justement à cette période-là, étrangement, que Tamim Antoniades, pardon, qui est l'un des cofondateurs du studio, a eu cette idée un peu folle de se faire un petit groupe au sein de Ninja Theory, parce qu'ils sont une centaine de salariés en tout, c'est pas du tout un petit studio non plus, de prendre un petit groupe de 10-15 personnes maximum et d'essayer en fait de voir si c'était possible de se créer un jeu de A à Z et de réussir à le vendre. Tout simplement.
Ouais, parce qu'il faut rappeler donc qu'à cette période, au moment où l'idée de Hellblade va commencer à se formaliser dans le studio, c'est qu'il se passe aussi quelque chose dans l'industrie du jeu vidéo. On passe à la dernière génération, donc PS4 et Xbox One, et c'est vrai que les coûts vont énormément augmenter, et il y a plein de studios en fait qui ne vont pas arriver à survivre, et c'était justement des studios de l'envergure de Ninja Theory. C'est vrai qu'on a regardé une présentation du studio où ils faisaient justement un peu le bilan, l'hécatombe un petit peu des studios qui ont pas pu faire cette transition, justement parce qu'ils étaient un peu dans cette même case qu'avait eu Ninja Theory avec Heavenly Sword et Enslaved, qui n'étaient pas non plus des jeux qui avaient cartonné aussi bien sur le plan critique que commercial, et surtout qui n'étaient pas au niveau des grosses, enfin pas au niveau vraiment en termes de scope et de production value des gros AAA qui commençaient vraiment à s'imposer sur le marché.
Ouais, Ninja Theory qui ont galéré parce qu'ils ont essuyé plusieurs refus, ils avaient pitché différents jeux à différents éditeurs après, donc 2013, après Devil May Cry. Et pour eux, bosser pour Disney, c'était l'occasion de financer du coup ce petit projet en indé de côté. On a appris qu'il coûtait, alors entre guillemets, tout est relatif si on se compare plutôt aux AAA ou plutôt aux indés, mais en Hellblade a dû coûter environ 10 millions de dollars. Et eux, en gros, la façon dont ils se présentent, c'est qu'ils font de l'indé, mais avec certaines exigences en fait du AAA, où ils constatent qu'on a d'un côté des jeux comme Gnome ou Stanley Parable, de l'autre, on va avoir des GTA et compagnie. Et ils ont essayé un petit peu de trouver leur place, ce qu'on appelle aujourd'hui volontiers des double A, Mais c'est vrai que c'est pas forcément une appellation qu'il y avait à cette époque-là. En tout cas, ils ont pas voulu se ranger sous cette bannière.
Et en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'on était vraiment à une phase de transition dans cette capacité à s'autofinancer. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore dans le modèle actuel. Alors, c'est fou parce qu'il s'est déroulé que quelques années, mais on était encore dans une phase, on va dire, de recherche. Et les choses étaient en train de se solidifier au niveau du financement participatif, au niveau des fonds d'investissement indépendants qui peuvent dépanner ou qui peuvent même carrément prendre en charge des studios indépendants, enfin, en tout cas des productions indépendantes. Donc forcément, Ninja Theory, ils se sont retrouvés avec cette question de comment on va survivre, puisque c'est un petit peu le fonds de commerce de pas mal d'entreprises. Et ils ont essayé de taper effectivement dans cette espèce d'entre-deux. Ce qui a été très malin, c'est qu'ils ne l'ont pas forcément présenté comme du double A. Ils ont vraiment insisté sur l'idée de faire du jeu indépendant avec la production value du triple A, c'est-à-dire vraiment des jeux un peu différents, des jeux peut-être un peu plus ambitieux, avec des thématiques peut-être plus personnelles, des choses comme ça, mais avec des visuels d'un jeu triple A. Ça, c'était vraiment là-dessus en fait qu'ils ont communiqué et qu'ils ont essayé de présenter Hellblade au monde entier. Un truc qui est intéressant à noter par rapport à Hellblade et surtout donc leur objectif avec Ninja Theory, avec ce jeu-là, c'était de ne pas passer par la case justement financement participatif parce qu'ils voulaient pas passer par ça. Ils se sont dit on va essayer de le financer nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment une volonté qui est quand même assez radicale parce que lever comme ça des millions de dollars, ça a rien d'évident. Mais ils voulaient vraiment réussir à prouver que c'était possible au sein d'une grosse équipe en fait comme ça de 100 personnes d'extraire un petit noyau de 15-20 personnes maximum, de faire un jeu qui coûte un budget raisonnable. Alors évidemment 7-10 millions ça paraît fou comme ça, mais on est à environ une fraction de ce que coûte un triple A aujourd'hui. On est plutôt sur des budgets de 70-80 millions. Ouais. C'est des petits triple A ça aujourd'hui, tellement ça a augmenté. De faire ce jeu-là en quelques années et de réussir à le vendre eux-mêmes. Ça, c'était également une de leurs volontés. Ils voulaient vraiment pas du tout passer par ni un éditeur, ni un publisher, ni quoi que ce soit. De la vente uniquement en démat, vraiment passer que par le PlayStation Store, Steam, GOG, enfin bref, aucune boutique physique qui prend énormément de cuts, ce qui fait qu'ils peuvent baisser le prix de vente du jeu, mais quand même gagner pas mal d'argent, puisque Steam ne prend que 30%. À l'époque, en tout cas, c'était... C'était vraiment le cut le plus bas qui existait, hein, parce que l'Epic Game Store n'était pas encore là, ni quoi que ce soit. Donc Steam, c'était le meilleur deal pour la plupart des créateurs à ce moment-là.
Ouais, ils ont vraiment fait cette espèce de grand écart entre d'une production, essayer d'aller taper sur la production value des AAA, mais aussi de s'inspirer du business model des indés. Donc vraiment, comme tu le dis, rester simplement sur le digital. Au niveau financement, on l'a dit, ils bossaient pour Disney, sur Disney Infinity. Donc c'est quand même ça qui a pu apporter la trésorerie et financer un petit peu de manière externe le jeu. Il y a aussi l'exclusivité temporaire qui a été validée par Sony. D'ailleurs, le jeu sera une bonne opération pour Sony, hein, puisque le jeu, en tout cas sur le store Europe, ça a été la meilleure vente du store au mois de sa sortie, donc en août 2017. Et voilà, c'est vrai qu'ils ont... Ils ont pris ce modèle un peu hybride sur lequel d'ailleurs ils ont beaucoup communiqué parce que la communication du jeu, ça c'est vraiment eux qui s'en sont occupés. Hein, donc vraiment ils ont pris à bras le corps cette partie marketing, communication, qui en général ce que font les publishers, hein, c'est ça dont s'occupent les publishers, les distributeurs. Là ils vont s'occuper eux-mêmes de ça et ils vont faire quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils vont vraiment présenter tout le développement avec des journaux de développeurs, les développeurs diaries, et présenter vraiment le développement du jeu tout au long de sa création, et du coup commencer à faire parler du jeu à la fois sur leur démarche autour de la mocap, de la performance capture, le sound design, quelles étaient aussi les thématiques du jeu. Ça c'est assez... C'est assez atypique, en fait, de commencer à présenter déjà quelles étaient vraiment les intentions très concrètes derrière le jeu, de quoi ils voulaient parler avec ce jeu. Et comme ça, ils ont pu faire parler d'eux très en amont de la sortie d'Hellblade, ce qui, encore une fois, est différent de ce que peuvent faire des publishers traditionnels, puisque dans le jeu vidéo, on est quand même plutôt en mode on ne dit rien. Et certainement, on ne présente certainement pas des prototypes ou le début de la production. C'est vraiment quand on commence à avoir beaucoup d'éléments qu'on communique. Eux, ils l'ont fait très en amont. Et ça a vraiment payé parce que le jeu a finalement très vite fonctionné.
Ça a payé sur plusieurs aspects parce que d'un côté, du coup, c'était campagne de com efficace puisque, comme tu le dis, on n'avait pas forcément l'habitude de voir ça dans un, alors entre guillemets, gros studio parce que c'était pas une grosse équipe, mais effectivement de voir un petit peu ces coulisses de développement. Et ça leur permet aussi de cultiver une image, en fait, vraiment de studio indé, parce que ça, ils le disent, c'est que je crois que le premier Diary, il est de 2014, donc vraiment au tout début de la production du jeu, et il dit, bon, bah, d'habitude, on n'a pas le droit d'en parler, mais là, comme on n'a pas d'éditeur, eh ben, on va dire ce qu'on veut, on va montrer ce qu'on veut, donc il y a vraiment, c'est vraiment win-win, en fait, dans cette situation.
Ouais, ouais, c'est vraiment une approche qui est très maligne, en fait, parce qu'il y avait une demande depuis pas mal de temps de justement peut-être un peu plus de transparence, un peu moins d'opacité dans les développements, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe, tu vois, quand on arrive au bout d'un développement de plusieurs années et qu'on voit un jeu avec des downgrades, des bugs, etc., les gens ils comprennent pas comment c'est possible que ça en arrive là. Et là, en fait, quand tu vois l'envers du décor et que tu les vois galérer à mettre des bouts de scotch sur des caméras pour essayer de faire eux-mêmes leur truc de mock-up, etc., enfin, ils cultivent cette image un peu d'amateurs ou de démerdes ou de débrouilles qui en réalité ben, est souvent le lot de même de très très gros studios. C'est vrai que même s'ils ont des moyens, etc., il y a toujours une part un peu de débrouille parce que le jeu vidéo, il y a un côté un peu artisanal là-dedans et ils ont vraiment beaucoup communiqué là-dessus. Hein. C'était un dev diary par mois. Donc en fait, de 2014 jusqu'à la sortie, il y avait un petit épisode tous les mois où ils allaient discuter d'un sujet particulier, ils allaient revenir sur un truc qu'ils avaient développé les mois précédents, ils allaient répondre aux questions de la communauté. Enfin, vraiment, comme ils avaient cette liberté de ton par rapport à l'absence d'un éditeur, ils en ont énormément profité, et ce qui fait que bah, ils ont également bénéficié d'une énorme couverture médiatique, à la fois sur leurs vidéos YouTube, et parce qu'il y avait des gens qui les attendaient sur les réseaux sociaux, mais également parce que comme ils produisaient sans cesse des nouveautés, même en période où il y avait en fait rien, bah, les sites spécialisés pouvaient publier des news. Moi j'avais vérifié du coup à l'époque, quand c'est sorti, j'étais encore chez Gamekult, et tous les mois on faisait une petite news pour dire, bah, Hellblade parle de ceci, etc., et ce qui fait qu'en fait, leur communication a très très bien fonctionné puisque bah, c'était relayé par les canaux officiels habituels, enfin les canaux on va dire pro habituels, mais également par bah, toute leur communauté qui attendait le jeu avec impatience, en fait.
Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, le jeu très vite va atteindre son seuil de rentabilité. Je crois qu'en à peine, Max, t'as peut-être de meilleurs souvenirs que moi, mais je sais qu'il leur fallait à peu près 300 000 ventes. Hein, c'était ça leur seuil de rentabilité pour pouvoir atteindre l'équilibre. C'est quoi, ils l'ont atteint en un ou deux
quelques
mois,
je crois. Ça, ouais, j'ai entre un et trois mois, mais je sais plus exactement. Ouais.
En fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient présenté, donc dès 2014, parce que c'est pareil, dès 2014-2015, ils commencent à participer à beaucoup de conférences, GDC, GDC Europe, etc., pour présenter un peu leur projet et leur approche un peu différente. Et ils expliquaient qu'avec un budget, comme ils l'envisageaient, donc à l'époque, ils étaient plutôt partis sur 6-7 millions, il leur fallait effectivement que 300 000 ventes, ce qui est effectivement très peu. Quand tu regardes les ventes, tu vois, quand tu vois, je crois que c'était à la même époque où Tomb Raider, le reboot de Square Enix, n'avait pas du tout fonctionné, alors qu'il s'en était vendu des millions, mais ouais, ça n'avait pas permis de rentabiliser le projet. Là, eux, avec entre guillemets que 300 000 ventes, en démat, ils savaient qu'ils allaient y arriver. Alors au final, le jeu a coûté un peu plus cher, ils sont montés à 10 millions, mais ils ont réussi à atteindre très vite les 500 000 ventes, qui étaient leur point de break-even, donc où ils arrivent à rentabiliser le coût du développement. Et par la suite, en fait, bah, le jeu s'est vendu beaucoup plus, puisqu'il a dépassé le million de ventes en 2018 avec les sorties successives sur console, Xbox, Switch, etc. Aujourd'hui, le jeu, il est sur Game Pass. Bon, entre-temps, Ninja Theory s'est fait racheter par Microsoft. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais en tout cas, entre le moment où ils ont commencé à parler de Hellblade en 2014 et le moment où il est sorti en 2017, ils ont vraiment fait tout un travail de communication, de pédagogie auprès des gens, et ça a payé, puisque bah, le jeu, à la sortie, tout le monde l'attendait, il a été testé par tout un tas de sites, hein. Si on va sur la page Metacritic, il y a des dizaines de publications, et en plus, il s'est bien vendu, donc pour eux, c'était banco, quoi.
Et il a été bien noté, puisque sur Metacritic, c'est au moins 80, je crois que c'est 81 sur PlayStation 4, un peu plus sur PC, et encore plus sur Xbox One de mémoire.
Non mais oui, une vraie réussite critique et commerciale par rapport au projet qu'ils avaient envie de faire. C'est vrai que c'était audacieux vraiment de tenter ce pari-là, d'essayer de faire cette espèce de grand écart. Mais je pense encore une fois, et je pense on reviendra dessus tout au long de l'épisode, mais cette communication, elle a vraiment été clé dans leur réussite, je le pense sincèrement. Et moi de toute façon, je suis toujours à dire aussi que j'aimerais avoir plus de matière sur les jeux, avoir ce genre de choses. Et eux, ils ont fait ce choix-là parce qu'ils ont pu se dire, bah voilà, on est, comme tu le disais, on n'a plus besoin de secrets, on fait ce qu'on veut. Et je pense que ça tape, comme tu le dis, vraiment dans une attente que beaucoup de joueurs et de joueuses peuvent avoir. Et voilà, ils ont vraiment préparé un espèce de terrain pour que le jeu se vende bien, tu vois.
Et ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, tu vois, quand on voit leur exemple et leur succès, tu pourrais te dire, bah, ça aurait pu faire des émules chez d'autres studios, mais c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, même sur des petits projets indés ou quoi que ce soit, tu vois, moi je suis pas mal de projets sur Kickstarter ou d'autres, t'as pas non plus, t'as des petites news régulièrement, mais t'as pas forcément cette volonté de faire des vidéos, de montrer des choses. Là, eux, où ils ont été vraiment très malins, c'est que bah, comme ils ont les moyens financiers d'un gros studio derrière et le matos, ils avaient une vraie type de gens qui étaient capables de faire des vidéos, ils pouvaient se présenter, tu vois, avec un setup classique, avec les petits micros, les petits fauteuils, les machins, on va interroger l'actrice du coup qui incarne Senua, on va la faire parler, enfin... Il y a eu vraiment la même chose que tu peux attendre d'un making-of, tu vois, d'un DVD ou d'un Blu-ray que tu vas acheter après avoir vu un film, mais avant la sortie du jeu. Et ça, c'était, je pense que c'est l'une des clés de leur succès, très clairement.
Je pense qu'ils ont un peu suivi en fait, ce qu'a pu faire Double Fine avec Broken Age, qui est sorti en 2014 et 2015, puisqu'il était en deux parties, où c'était, c'est pas la petite équipe indé, où genre ils sont que 2-3, ou alors le mec indé qui va bosser de chez lui ou de chez ses parents. Non, c'est quand même un studio qui avait des éditeurs jusque-là, qui s'adapte au marché, puisque Double Fine, c'était le constat, les point and click, ça marche plus, enfin, plus personne veut en éditer. On va faire Kickstarter, c'était un des plus gros projets Kickstarter et un des premiers énormes succès de la plateforme. Et ils avaient aussi une équipe documentaire qui filmait tout sur place. Alors c'était un peu plus fourni que ce qu'a pu faire Hellblade, mais j'imagine que ouais, ça a pu les inspirer. Eux se sont adaptés à leur façon, puisqu'ils n'ont pas fait de financement participatif, mais ils ont fait de l'argent en bossant sur un autre jeu à côté. Mais on voit un petit peu, c'est une petite tendance entre guillemets de voir des pas si indés faire de l'indé, en tout cas ne plus dépendre d'un éditeur, quoi.
Je pense que ça témoigne vraiment justement de la crise que pouvaient connaître beaucoup de ces studios, c'est qu'ils ont dû entre guillemets vraiment se sortir les doigts pour trouver des solutions alternatives, à la fois pour créer mais aussi pour communiquer, et forcément ça fait naître des nouvelles choses. Et alors je sais pas si pour Double Fine, quoique Double Fine va suivre aussi d'ailleurs un destin assez similaire à celui de Ninja Theory. Et en parlant de destin, et on va pouvoir s'intéresser maintenant à celui de Senua, puisqu'on va rentrer dans l'histoire du jeu. Hellblade qui nous fait incarner cette jeune femme qui est une jeune picte. Alors nous avons fait nos recherches Wikipédia avant dans cet épisode, car nous sommes une équipe sérieuse. Les pictes, qu'est-ce que c'était? C'était une tribu celte qui vivait dans l'Écosse, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça, Écosse du Nord en fait, hein, c'était vraiment c'est quoi, c'est 8-9e siècle je dirais, en gros, à une période, je sais plus à quelle période sont arrivés les Romains, tu vois, c'est pas du tout, j'ai pas encore joué à Assassin's Creed Valhalla, du coup je suis pas forcément très calé.
Non, mais en fait,
c'était des Celtes, ils habitaient vraiment dans le nord de l'Écosse, donc c'est vrai qu'ils devaient être sujets à des invasions vikings, puisque c'est ce qui arrive à Senua en fait, hein, on le reverra tout au long. En fait, son village a été attaqué, tout le monde a été tué sauf elle, parmi les victimes, il y a eu malheureusement donc son copain qui s'appelle Dylan, et en fait, Senua va partir avec la tête de son bien-aimé dans un petit sac qu'elle se trimballe à la ceinture, et elle va partir en fait dans un... j'allais dire visiter la mythologie nordique, puisqu'elle s'imagine qu'elle va aller visiter Helheim, donc le monde des morts nordique, pour aller discuter avec
direct.
Ella, la maîtresse des lieux, ça spoil, on est là, et en fait exiger de récupérer son amant, tu vois, comme dans une tragédie grecque façon Orphée Eurydice, quoi.
Ouais, tout à fait. En fait, elle a été exposée, comme elle est picte, hein, forcément, la mythologie nordique, c'est pas vraiment sa culture, mais elle y a été beaucoup exposée déjà de par les invasions, et aussi via le personnage de Drut, qui est un Irlandais qui avait été capturé justement par les Vikings, qui s'était beaucoup imprégné de leur culture, et qui, en revenant sur les terres où vit Senua, lui a raconté justement tous ces contes-là. Alors lui, il était aussi un petit peu mis à l'écart de la tribu, mais Senua l'écoutait, et du coup elle aussi, elle s'est imprégnée de toutes ces choses-là, et c'est pour ça que elle voyage entre guillemets vers vers cette mythologie. Moi, je le vois un peu comme dans Sandman. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent la bande dessinée, où justement, en fait, toutes les mythologies arrivent à coexister entre elles parce que elles dépendent des cultures et du coup, c'est possible de voyager entre ces mythologies. Et je le vois un petit peu comme ça. Et du coup, comme tu l'as dit, son objectif, c'est d'essayer de racheter un peu l'âme, entre guillemets, de son défunt bien-aimé auprès de Hela, la maîtresse des lieux, et justement sous les conseils de ce fameux Drut qui lui a expliqué un petit peu les bails, que c'était peut-être possible justement en enfer de faire revivre les morts.
Alors on peut préciser que Drut, il avait été du coup réduit en esclavage par les Vikings et que du coup ça a pas mal biaisé. Je trouve qu'il avait une mauvaise opinion des Vikings forcément après ça. Et c'est vrai que dans les différents flashbacks que va avoir Senua, à chaque fois il a une présentation de ce peuple qui est extrêmement sombre, extrêmement violente, extrêmement agressive. Et ça va beaucoup influencer en fait ce que va pouvoir voir et ressentir Senua dans son voyage.
Oui, là, c'est le moment de le dire. C'est effectivement pas des. C'est pas un vrai voyage qu'elle va effectuer vers des représentations concrètes et palpables de la mythologie nordique. C'est ce qu'elle va. C'est des hallucinations, puisqu'on comprend qu'elle souffre de maladies mentales. Alors, il n'y a pas un cas expliqué, mais il y a des symptômes qui peuvent s'apparenter à de la schizophrénie ou de la paranoïa. Mais bref, elle va avoir des hallucinations auditives et visuelles. Et c'est par ce biais, en fait, qu'on va effectuer tout ce voyage.
Oui, c'est ça, elle est en proie à ce qu'elle appelle les ténèbres, donc des espèces de entités un petit peu non matérielles qui est complètement en train de l'envahir, à la fois visuellement, mais aussi via des voix qu'elle entend constamment. Hein. C'est un jeu où on est paradoxalement très seul, mais pas du tout, puisqu'on est toujours accompagné de plusieurs voix. Il y a des voix de femmes, il y a aussi une voix beaucoup plus rauque comme ça, qui la harcèle tout au long du jeu. Il y a aussi la voix justement de Drut, qui revient par des flashbacks, il y a aussi la voix de son défunt aussi, donc voilà, il y a toute cette cosmologie de personnages et d'entités qui communiquent et qu'on entend en fait tout au long du jeu et qui vont nous accompagner donc dans les péripéties qu'elle va traverser dans ce royaume des morts. Les péripéties, on peut en parler rapidement, on va se rendre compte qu'elle ne peut pas combattre et accéder directement à Hela, qui est la maîtresse supposée des lieux, et du coup elle va devoir d'abord affronter des gardiens. Alors j'ai plus vraiment leur nom en tête des différentes bestioles qu'on va affronter.
Je me souviens que de Surt, qui est le chien des ténèbres, voilà.
Voilà, donc il y a notamment un chien des ténèbres, et puis elle devra aussi récupérer une épée, j'imagine que c'est la fameuse Hellblade, hein, c'est possible, qui lui permettra justement de combattre enfin Hela. Et le jeu se termine donc sur cette confrontation avec la fameuse Hela, et on se rendra compte, après une longue, longue séquence à combattre des vagues et des vagues et des vagues d'ennemis, juste qu'on finisse par abandonner, parce que, voilà, ils arrivent à l'infini, on arrêtera de combattre. Hela qui transpercera Senua de son épée, mais encore une fois, c'était un peu une hallucination, puisque on comprendra par la suite que Hela, c'était plus une incarnation du mal-être et aussi peut-être du deuil que Senua n'arrive pas à faire via par rapport à Dillion, puisque en fait on se rendra compte que c'est pas Senua qui est transpercée, mais c'est l'inverse, c'est Hela qui est transpercée, et Senua finira par enfin lâcher la tête de Dillion et le laissera tomber dans le vide et acceptera enfin sa mort, puisque en fait elle ne pouvait pas le faire revivre, hein, malgré tout ce que lui a dit Drut et tous les mythes de la mythologie, c'est pas possible. Et du coup elle se réveillera entre guillemets de ce mauvais cauchemar qu'elle vient de traverser pendant 8 heures, puisqu'elle nous regardera à la caméra comme elle l'a fait beaucoup tout au long de l'aventure et nous dira que voilà, c'est bon, maintenant elle a un peu accepté là où elle en est, elle a aussi un peu accepté toutes ces voix qui vivent avec elle et qui du coup presque sont un peu sceptiques via ce qui se passe, genre oh qu'est-ce qui se passe, elle a changé, il y a quelque chose qui a changé, et du coup Senua nous regarde pour nous dire que ça y est, elle va pouvoir commencer une nouvelle vie, une nouvelle aventure, et le jeu se termine là-dessus.
Donc ça, effectivement, bah, c'est l'histoire principale du jeu, hein, c'est vraiment l'enjeu principal, mais en réalité, tout au long de l'histoire, avec les différents flashbacks et bah, toutes les informations qu'on va apprendre via les différentes voies qu'on t'enseigne, on va aussi en apprendre pas mal sur son histoire à elle, pour comprendre un peu d'où elle vient. C'est comme ça qu'on va comprendre que sa mère avait les mêmes troubles qu'elle, en fait, hein, et que c'était pas du tout accepté par les gens autour d'elle, puisque son père, Senua, a même tué sa mère au bout d'un moment, donc ce qui est... c'est pas très bien de faire ça devant ses enfants. En général, ça laisse des séquelles, malheureusement, surtout si elle avait déjà un terreau pour ses différents troubles. En plus de ça, bah, elle a été maltraitée toute son enfance à cause, justement, de sa maladie. Elle a été mise à l'écart, elle a été isolée, elle n'a pas pu grandir, en fait, comme une personne plus classique. Et bah, forcément, ça a beaucoup joué sur sa perception du monde. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a Dillion qui lui parle et qui s'intéresse à elle et qui n'a pas peur d'elle et qui ne la rejette pas, bah, elle est forcément un peu plus intéressée. Et donc, voilà, en fait... Grâce à l'histoire principale, on va aussi pas mal en apprendre sur Senua pour savoir justement un petit peu d'où elle vient. Tu vois, en gros, elle part avec un bagage qui est vraiment très difficile parce que bon, elle a ses troubles qui sont là et en plus de ça, elle a été maltraitée dans son enfance. Donc ça peut, j'imagine, expliquer la force des choses qu'elle peut voir et ressentir, et ça explique en tout cas la colère qu'elle ressent quand elle tombe sur le corps sacrifié de son chéri. Quoi.
Bah, d'ailleurs, on précisait le sous-titre hein, qui s'appelle vraiment Senua Sacrifice, mais c'est parce que vraiment le jeu est centré autour d'elle, hein, à la fois littéralement en termes de présentation, en termes de mise en jeu, mais vraiment c'est son aventure, c'est on fait finalement pas un voyage dans Helheim, mais vraiment un voyage au cœur de son esprit, puisque bah, tout ce qu'on va vivre pendant cette aventure, ce ne sont pas des choses qui sont concrètes, palpables, encore une fois, ce sont des choses que Senua va s'imaginer, toutes les portes, toutes les créatures qu'elle va affronter, tous ces moments de doute et de... En fait, c'est plein de traumas qui vont se manifester tout au long du jeu et qui vont venir à la fois via des réminiscences, donc des espèces de flashbacks, qui sont d'ailleurs certains faits en FMV, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui ne sont pas modélisés mais qui sont filmés, qui ont tous simplement été filmés, notamment Drut là, qu'on croise beaucoup, et c'est vrai que déjà ça donne une espèce de distorsion qui est assez intéressante.
Et c'est ça en fait, toute cette représentation de ces différents troubles, de ces différents traumas, c'est vraiment en fait le cœur du jeu, c'est vraiment là-dessus que Hellblade s'est vendu, a communiqué et se distingue en fait des autres jeux vidéo, parce qu'ils ont vraiment voulu parler des maladies mentales, des troubles mentaux. C'est même tellement au cœur de leur démarche que dès le début du jeu, quand ça s'ouvre, en fait, que tu as la séance d'intro, une des premières informations que tu vois, c'est le nom des différents médecins qu'ils ont consultés pour leur phase de recherche. Et c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de leur com. Hein. Régulièrement, ils expliquaient qu'ils étaient donc au contact avec donc, différents médecins, des personnes qui elles-mêmes avaient ces troubles-là, qui leur expliquaient leur expérience pour essayer de leur expliquer du coup leur point de vue, qu'eux, ils puissent retranscrire ça d'une manière ou d'une autre dans le jeu vidéo. Ils ont également travaillé avec différentes associations, une qui s'appelle Welcome, qui est là justement pour... un petit peu sensibiliser le public à toute la réalité de ce qu'on appelle la folie, tu vois, entre grosses guillemets, qui justement est montré qu'en fait, bah, c'est des troubles, c'est des maladies, c'est des choses qu'on peut soigner, on peut vivre avec en société, etc.
Welcome qui, je crois, est l'assaut qui a participé au financement du jeu. Alors, je sais plus si c'est vraiment celle-là ou si c'est une autre, mais il y a...
Ouais. Ouais. Il me semble que c'est celle-ci, ouais. Mais en tout cas, voilà, ils étaient souvent associés avec ces trucs-là et c'est vrai que parfois, quand tu regardais un petit peu les différents éléments de communication de Hellblade et de Ninja Theory, on était presque dans du serious game, tellement ils montraient qu'ils avaient pris ça très à cœur, le traitement de tous ces troubles et de toutes ces maladies mentales. D'ailleurs, ils avaient fait quelque chose qui avait été assez notable, c'est qu'une fois que le jeu était sorti, ils avaient choisi plusieurs... Il me semble qu'ils l'ont fait plusieurs fois, mais en tout cas, je sais qu'ils l'ont fait au moins une fois, ils avaient pris une journée, et pendant une journée, ils avaient fait toute la pub en amont pour que les gens se préparent, et tous les bénéfices qu'ils gagnaient pendant cette journée étaient en fait reversés à cette association qui est vraiment associée, c'est le cas de le dire, à leur succès en fait.
Ouais, comme tu le dis, ils se blindent pas mal en fait, puisque comme tu as dit dès le début, il y a ce côté crédibilité qui donne au jeu, ou en tout cas qu'ils essaient de donner avec ces noms de professionnels associés, puisque les personnes qui sont à l'origine vraiment du projet, Tamim, donc le cofondateur, lui, n'est pas concerné par ces problématiques, c'est vraiment des choses qui voulait voulaient explorer, c'est une perspective qu'ils voulaient explorer, et du coup, effectivement, ils sont allés voir des personnes compétentes. On a envie de dire spontanément, bah, heureusement, ou tant mieux, c'est un peu la base, mais bon, dans le jeu vidéo, ou plus généralement dans les médias, c'est pas forcément si évident que ça de vouloir le représenter de façon non... comment dire, non blessante, ou en tout cas d'aller voir vraiment les personnes concernées qui vont témoigner, qui vont essayer, et le studio en retour qui va essayer d'être fidèle un petit peu à ces témoignages, avec évidemment une grande part de spectacle, hein, d'interprétation, parce que voilà, évidemment, c'est forcément le cas.
Mais ça, c'est important de le signaler, c'est-à-dire que dans l'industrie du jeu vidéo, donc en 2014-2015, mais même encore aujourd'hui, juste arriver en disant bonjour, on a discuté avec des médecins avant de parler du sujet dont on ne connaît rien parce qu'on ne sait pas notre métier, ça passe encore pour être une démarche, tu vois, vraiment limite avant-gardiste. Et donc ça montre qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin, je trouve, à faire de ce côté-là dans le jeu vidéo, parce que, comme tu le disais, tu te dis, ben oui, on va faire on va parler de troubles psychologiques, psychiatriques, bah on va aller discuter avec des médecins, tu te dis « Ouais, bah c'est normal, enfin, tu vois, nous, on voulait savoir qui étaient les pictes, on a ouvert Wikipédia, on n'a pas mis Wikipédia en haut, tu vois, au tout début du podcast, on ne l'a pas écrit en grosses lettres en disant qu'on avait été voir sur Wikipédia qui étaient les pictes. » Mais eux, en fait, ça leur permettait plusieurs choses, comme tu dis, il y a cette volonté donc de validation, de légitimité par rapport à ce sujet-là, parce que comme c'est un sujet qui est non pas tabou dans le jeu vidéo, je dirais pas jusqu'à ça, mais en tout cas qui n'a jamais été abordé de manière aussi frontale, je pense que ça leur donnait une espèce d'assurance, de sécurité en disant, bah voilà, on va parler d'un sujet qui est difficile, et donc bah, pour le faire, on s'est renseigné auprès des personnes compétentes. En plus de ça, il y a une espèce de hotline, il y avait un site qui avait été mis en place que tu pouvais voir pendant le jeu, en gros, s'il te disait que si toi, ça t'évoquait certaines choses où ça te, tu vois, ça résonnait avec ce que tu pouvais expérimenter au quotidien, ils avaient mis une petite hotline pour que tu puisses poser des questions, etc. Donc ils ont vraiment voulu, comme tu dis, voilà, se blinder pour non pas dire on détient la vérité, mais on a fait le taf, on a fait les choses de manière sérieuse et on va essayer de ne pas traiter ça de manière un peu caricaturale comme on peut le voir, tu vois, l'image du fou avec son petit truc sur la tête en aluminium, etc., quoi. Ils ont vraiment voulu éviter complètement ces clichés-là.
Une fois qu'ils se sont inspirés du monde réel pour faire leur jeu, ils n'ont pas hésité ensuite à exporter ces thématiques, encore une fois, dans le monde réel. Tu vois, c'est pas, parce qu'il y a d'autres jeux qui ont pu aborder tout ce qui va être maladie mentale ou faire des représentations un petit peu horrifiques de ce que, en fait, le personnage vit dans sa tête ou des représentations de ses traumas ou quoi. Mais là, comme tu dis, il y a eu la hotline, il y a eu reverser des bénéfices aux associations, il y a eu un petit peu, en fait, ce dialogue ensuite avec les joueurs. C'était pas juste, entre guillemets, une histoire fantastique avec des hallucinations ou quoi. Il y a eu cette thématique sérieuse. On est revenu un moment à la vraie vie, ils ont dit ok, bon, c'était un jeu, mais on va quand même, on continue le dialogue, tu vois, c'est pas terminé, on va faire prendre un petit peu conscience de ces thématiques-là aux gens, on va continuer après le jeu, quoi.
Et oui, ça a vraiment, toutes ces thématiques-là, elles ont vraiment nourri le jeu, même si, comme tu le dis, bah, encore, moi je trouve qu'ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'horreur psychologique, hein. Tu parlais de trauma, de choses comme ça, moi je pense directement à Silent Hill, hein. J'ai joué une petite heure à Silent Hill 2, voilà, c'est ce genre de sales ambiances.
Ça y est, tu es un expert.
Voilà, je suis un expert maintenant sur l'horreur psychologique, non, pas du tout, mais par contre, je trouve que Hellblade met aussi beaucoup de choses en place, hein, que ce soit en termes de visuel ou aussi en termes sonore, pour créer quand même une expérience qui est angoissante et oppressante. Déjà, c'est vrai qu'il y a toutes ces voix qui nous assaillent comme elles assaillent Senua. Voilà, le jeu commence par « il faut jouer au casque », c'est plus que recommandé, parce que effectivement, dès que tu mets le casque, bah, tu entends toutes ces petites voix qui viennent en mode un peu binaural, qui te font de l'ASMR un peu dark, qui viennent
ouais,
te parler,
dark,
te dire
ouais.
Des choses que tu ne vas pas... L'ASMR, d'habitude, c'est « tout va bien se passer, vous êtes quelqu'un de bien », là c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment tu ne vas pas y arriver, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ci. Donc voilà, t'as toutes ces voix qui sont vraiment très oppressantes et qui ne te lâchent pas tout au long du jeu, hein. C'est un jeu qui est qui ne te laisse pas respirer, et c'est pareil visuellement, déjà l'écran il est un petit peu sali constamment, je sais pas si vous avez remarqué ça, on a l'impression que la caméra qui filme, elle a toujours des traces en fait dessus, et derrière, bah voilà, les paysages qui sont soit en train de brûler, soit en train d'être pris par cette espèce de, par ces ténèbres, par des lumières et des couleurs qui vont constamment s'entrechoquer, des contrastes et des couleurs très chaudes, très brutes, mais qui sont assez agressives. Et moi, je trouve que c'est un jeu qui est très vite, bah ouais, très oppressant en fait. Hein. C'est un jeu qui me met, qui m'a mis très vite mal à l'aise.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout cherché, tu vois, à minimiser ça. C'est-à-dire qu'il y a, comme tu le dis, il y a pas vraiment de moment de pause réel. C'est-à-dire que même quand il y a des moments de calme où il y a pas d'action, où tu ne fais que te balader pour aller d'une zone à une autre, en réalité, il y a toujours les voix qui seront là. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive. L'objectif, c'est d'essayer un peu de te mettre dans la peau de ces NUA. Et donc, quoi qu'il arrive, tu as ces voix qui vont continuellement te parler, discuter, parler entre elles aussi, hein, parce que des fois, elles font comme si ces NUA n'étaient pas là et elles font leur vie directement. Et il y a un autre élément de ce dispositif-là qui est assez oppressant, c'est le choix de la caméra, qui est vraiment très différent d'un tas d'autres jeux à la troisième personne, parce que pour une fois, ces NUA, on a fait des petites mesures, elle prend à elle toute seule quasiment la moitié de l'écran, et donc t'as une caméra extrêmement rapprochée, donc qui donne un effet très cinématographique, parce que régulièrement, la caméra va tourner autour du personnage, va filmer son visage, etc., sachant que ces NUA, en permanence, regardent la caméra comme si elle s'adressait à nous. Mais quand t'es en phase de déplacement pur jeu vidéo, que c'est, t'as la manette dans les mains, régulièrement, tu te dis, mais je ne vois rien. C'est-à-dire qu'en fait, t'as ce côté oppressant de... t'as un angle de vision qui est très très faible. Donc si tu veux juste regarder, il faut forcément se tourner. Enfin, comme tu le dis, le jeu met très vite en place des éléments qui te mettent mal à l'aise.
Ça renvoie un petit peu... Bon, c'est une caméra typique hein, du TPS. Hein, on remonte vraiment à Resident Evil 4 qui avait installé cette façon de filmer l'action. Et encore pire que dans Resident Evil 4, voilà, t'as ce champ qui est très 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 resserré. Et dans Resident Evil 4, ça créait aussi cette oppression, le fait que voilà, tu pouvais avoir des ennemis qui débarquent, ne pas voir vraiment l'ensemble de l'action devant toi, et dans Hellblade, ça t'oppresse dans toutes les phases, à la fois les phases de combat, mais aussi vraiment les phases d'exploration, où tu sens que tu as une espèce de lourdeur dans les déplacements déjà du personnage, qui ne va pas très vite de base, et même en courant, elle va pas très très vite, et surtout les mouvements de caméra qui sont assez lents, et avec un champ forcément resserré. Donc ouais, comme tu dis, moi je l'ai ressenti très vite en fait, manette en main, j'étais à 13 minutes de jeu et j'étais là, dis donc, je me disais, mais je vois pas grand chose dans le jeu, c'est compliqué de se déplacer parce que je me sentais vraiment étriqué dans ce petit champ de vision, et ça je trouve que ça participe énormément à ce sentiment d'oppression et de rapprochement forcément beaucoup plus intime avec le personnage principal.
Et là où ils sont malins, on reparlera des combats un petit peu plus tard, mais les voix parfois vont nous donner des indices sur ce qui se passe derrière nous, vont nous prévenir au moment où un ennemi va nous frapper par derrière pour qu'on ait le temps d'esquiver ou le temps de parer. Les voix vont dire genre « watch out » ou « behind you » ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et donc il y a un petit peu une bonne symbiose quand même entre le fait que la caméra donne c'est un peu cette claustrophobie, mais les voix derrière nous qui vont nous dire ce qui se passe un petit peu derrière dans les moments critiques. Un autre truc est assez chouette visuellement, ils ont fait un moment une compile de différents, donc dans un des développeurs Diary, ils ont fait une petite compile des retours qu'ils avaient reçus de personnes concernées qui essayaient d'expliquer un petit peu parfois ce qu'ils pouvaient voir en fait. Parfois ils vont sentir que la texture elle coule un petit peu ou que ça clignote un peu ou que ça va être un peu comme un kaléidoscope, et il y a un petit montage de moments du jeu qui essaye de représenter ça. Mm-hmm. Parce que visuellement il va y avoir plein d'effets différents parfois en fonction de quand on veut ouvrir une porte ou alors dans telle cinématique ou qu'on se concentre sur telle chose, et donc il y a eu une vraie recherche visuelle sur tout ça.
Ouais, ouais, et ça c'est vraiment là où le jeu a vraiment réussi à lier en fait son thème, son envie comme ça de parler des troubles mentaux. Ils ont vraiment essayé dans tous les éléments du jeu de retranscrire ça. Donc il y a les sons, ça effectivement en permanence on peut difficilement passer au travers. Le choix de la caméra, on en parlait aussi tout à l'heure, le fait d'utiliser du FMV, c'est assez malin parce qu'en fait c'est souvent une solution de facilité parce que ça coûte beaucoup moins cher, tu mets quelqu'un devant un fond vert avec du maquillage et ça passe. Mais dans le cas de ces NUA, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Drut dénote complètement avec le reste du décor, et dès qu'on voit en général dans Hellblade un personnage réel, donc du FMV, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de mal se passer. Soit elle a un flashback, soit c'est une hallucination. Enfin, on ne sait pas trop en fait où est la limite entre la réalité et la fiction, ce qui évidemment est rigolo parce que comme c'est des vrais personnages, on sait qu'en fait ils ne sont pas vrais. Donc ça crée comme ça une espèce de décalage. Et on se rend compte en fait, après 15-20 minutes comme tu dis, très vite que l'intégralité du jeu, c'est une espèce de dispositif pour nous mettre comme ça dans la peau de ces NUA et nous faire ressentir ce qu'elle peut ressentir avec ses différentes hallucinations auditives, visuelles, etc.
Et si jamais on ressent pas complètement ce qu'elle ressent, un autre truc sur lequel ils ont énormément capitalisé, c'est vraiment les animations faciales. Autant ils se vantent un petit peu d'avoir fait un petit, comment dire, un petit setup un peu indé qui leur évite de payer tout un studio de mocap et compagnie où ils ont fait. Ça rappelle un peu ce qu'avait fait le studio derrière Observation, le studio No Code
Ouais,
où
tout à fait, j'y pensais aussi, ouais,
ils ont imprimé en 3D encore une espèce de case sur laquelle ils accrochent une caméra, etc. pour pouvoir faire à bas coût avoir le même résultat que ce qu'ils pourraient avoir en payant énormément plus cher. Et là, il y a énormément de scènes, comme vous le disiez, où elle va regarder la caméra, où Senua, il y a plein de scènes où on va filmer son visage de très proche, elle va pleurer, elle va crier, donc on essaye quand même vraiment de nous faire, pas comprendre, mais en tout cas vraiment de nous montrer ce qu'elle va ressentir. Il y a plein de plans où, voilà, il y a des expressions très marquées, ses yeux sont très souvent quand même écarquillés. Et puis il y avait l'anecdote évidemment qui renforce ce côté indé, c'était que bah, à la base l'actrice qui incarne Senua, elle était juste prise au début parce que c'était la photographe slash monteuse vidéo de l'équipe qui faisait les protos de mocap etc. avec eux. Puis finalement ils l'ont gardée parce que bah, ça marchait bien quoi.
À noter quand même que c'était quand même un risque parce que vraiment faire tous ces close-ups, hein, c'est vraiment ces plans très très rapprochés d'un personnage virtuel qui se base sur la mocap.
Ouais.
Je veux dire, si tu tapes à côté, si tu tombes dans ce qu'on appelle l'Uncanny Valley, c'est-à-dire la vallée de l'étrange, cette espèce de truc où les personnages fictifs sont presque trop réels et on tombe sur une espèce de déséquilibre qui va être dérangeant, bah là justement, ils ont vraiment, je trouve, réussi à tomber sur le bon équilibre. Et voilà, comme ils ont fait ces choix de plans très rapprochés, ça aurait pu complètement foirer. Ça, je trouve que c'était un risque. Et voilà, malgré leurs moyens un peu rudimentaires, ils sont arrivés à un résultat très 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 haut de gamme, hein, vraiment qui est comparable à justement ce qu'on pouvait voir dans d'autres productions AAA. Et ça marche quand même vraiment en jeu. Tous ces moments qu'on passe avec ces nuages qui nous regardent, qui nous parlent comme ça, qui nous hurlent parfois dessus, c'est des moments qui sont. Qui sont forts, parfois c'est même difficile d'en prendre presque la charge, je trouve. Tu reçois ça comme ça devant ton écran. Bon, moi je peux le dire, de toute façon, l'horreur psychologique, c'est pas des choses que j'aime bien vivre vraiment en jeu vidéo. Moi, petite anecdote perso, quand j'avais arrêté la cigarette, j'avais eu des moments où je me sentais très oppressé comme ça. Et vraiment, je trouve que le jeu m'a renvoyé à des espèces d'états émotionnels comme ça. Et c'est vrai que très vite, j'étais pas très à l'aise là-dessus. Et je trouve que le jeu te donne beaucoup de charges comme ça. Et faut le tolérer quand même. Je pense que c'est pas un jeu non plus qui est à mettre entre guillemets entre toutes les mains parce que ça peut être assez perturbant de vivre tout ce qui t'envoie dans la tronche.
Ouais, sachant qu'il y a même une version réalité virtuelle, hein, une version VR du jeu qui est
Pff, ouais,
sortie. Et
jamais
là,
je ne
je
jouais
pense
ça,
que
jamais.
honnêtement, ça serait, à titre personnel, je pense que ça serait un peu trop. Parce que justement, en VR, tu as une privation sensorielle, puisque tu es aveugle et tu es sourd, mais tu entends et tu vois, mais c'est plus la réalité, c'est la réalité virtuelle. Et tu te retrouves du coup à pouvoir peut-être un peu tourner, un peu voir jouer la caméra comme dans un film interactif. Donc tu vas avoir un point de vue encore plus, on va dire, direct, un peu plus proche de Senua. Et il y avait quelques personnes qui l'avaient testé sur le Discord et qui disaient que c'était quand même assez saisissant l'effet du truc. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment ça qui est intéressant avec Hellblade, c'est qu'ils ont vraiment mis l'accent sur ce côté production value, où ils veulent absolument qu'on ne soit jamais éloigné de ces nuages d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas se détacher de l'action à l'écran, on ne peut pas à un moment donné, tu vois, partir dans une phase de pur gameplay où on oublie un peu ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un lien avec sa condition, que ça soit via l'audio, via le visuel ou quoi que ce soit. Donc on. Du début jusqu'à la fin, c'est un jeu qui installe comme ça son ambiance et qui nous lâche jamais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt réussi, parce que bah, c'était leur objectif de traiter comme ça les cas de maladie mentale. Parce que comme ils le disaient dans leur com en amont, comme ça avait jamais vraiment été traité dans le jeu vidéo, ils voulaient arriver avec une approche qui était un peu différente, mais extrêmement frontale pour pas minimiser en fait quelque part la réalité de sa situation.
Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça justifie d'avoir fait le choix de l'hyper-réalisme dans le jeu. Parce que pour moi, souvent dans le jeu vidéo, c'est. c'est pas quelque chose que je trouve très intéressant de faire de l'hyper-réalisme, mais là, je trouve que dans le cas d'Hellblade, ça donne ça participe à créer cette ambiance et ce truc que ce soit si dérangeant, si c'était un personnage qui était représenté de manière beaucoup plus abstraite ou beaucoup plus stylisée que l'hyper-réalisme, je pense que ça ne marcherait pas autant. Il y aurait une distance qui se créait, comme tu dis, alors que là, via l'hyper-réalisme, il y a une proximité avec la réalité qui fait que c'est d'autant plus dérangeant.
Et ça, bah, du coup, c'est renforcé, comme on l'a dit, le fait, tu vois, que la caméra, l'actrice nous regarde en permanence. Enfin, voilà, c'est tout un tas de choses qui vont aller dans ce sens-là. Ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'une fois que le jeu est sorti, bah, forcément, le jeu a fait pas mal parler de lui de manière classique, mais il y a pas mal de publications qui se sont posées la question de, et alors, auprès des personnes concernées, comment ça a fonctionné? Et là, il n'y a pas un consensus, hein, parce qu'évidemment, tu peux jamais plaire à tout le monde, mais tu as quand même beaucoup de retours de personnes qui ont des troubles plus ou moins marqués, qui vont plus ou moins ressentir à ce que peut vivre Senua, parce qu'évidemment, hein, c'est pas noir ou blanc, hein, c'est tout un spectre.
C'est très large, tout à fait.
T'as toute une gradation de problèmes et de troubles que tu peux ressentir dans ton quotidien. Et ça a quand même, il y a quand même vraiment beaucoup de témoignages de personnes qui disaient que ce jeu-là leur permettait de simplement mettre des mots ou mettre plutôt des images et du son sur des choses qu'elles peuvent vivre au quotidien et le montrer à leurs proches. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très intéressant, parce que pour un jeu qui se blindé, comme on le disait tout à l'heure, autant sur le côté on est sérieux, bah, ils ont quand même réussi à obtenir un des résultats qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire un petit peu de sensibilisation du grand public à une réalité qui n'est quasiment jamais mise en avant dans le jeu vidéo.
Oui, c'est vraiment quelque chose, je pense, des bons retours qu'on a pu lire sur le jeu, c'est ce qui a marqué les gens. Je pense que dans ton parcours de joueur comme ça, voilà, de joueuse, les gens qui sont tombés dessus sur leur PSN et qui s'attendaient pas forcément à vivre une expérience aussi radicale avec des graphismes de AAA, là où le AAA est quand même beaucoup plus fédérateur, beaucoup plus lisse, beaucoup plus dans le plaisir de jeu, hein, c'est vraiment ce que fait. Là, Hellblade, c'est un jeu qui te met des grosses tartes dans la tronche à ce niveau-là, et je pense que ça a beaucoup marqué les gens. Et si tu arrives à rentrer dans la psychologie, dans l'état émotionnel et psychologique de Senua, et que tu fais ce voyage avec elle, voilà, c'est quelque chose qui te reste, parce que c'est tellement vif ce qu'on te présente, que forcément, je pense que ça peut marquer très, très fortement les gens qui ont passé le moment et un bon moment avec Senua.
Et du coup, c'est un peu le moment de faire la transition avec la révélation, qui est que nous, ça n'a pas du tout marché. Aucun d'entre nous a apprécié le jeu, mais pas forcément pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire tout le dispositif par rapport à la caméra, le personnage, le film, etc. Nous, ce qui nous a vraiment dérangé et ce qui nous a fait défaut, en fait, dans Hellblade, c'est des choix qui, autant en termes de production, la caméra, le rendu visuel, etc., on est sur du AAA, mais autant en termes de game design, on est malheureusement aussi sur les mauvais côtés du AAA, parce que très clairement, c'est un jeu qui pêche énormément de par sa structure, de par ce qu'il nous demande de faire, hein, parce que en dehors des moments où il y a du cinématique, on doit faire des petites énigmes, on doit chercher des runes dans les paysages, rien qu'au mot runes, je vois Hugo, il y a ses sourcils qui se lèvent, et ou sinon on doit combattre des ennemis, et vraiment là-dessus, je veux bien prendre la responsabilité de cette phrase, mais je trouve qu'il n'y a vraiment aucun des éléments de game design du jeu qui est réussi. Pour moi, il n'y a vraiment rien qui fonctionne, que ça soit le level design, que ça soit la structure du jeu, on est sur des choses qui sont vraiment très archaïques. J'avais l'impression, en fait, d'avoir d'un côté un jeu très moderne qui essaye de nous parler de sujets qui sont difficiles, qui sont très, très durs à aborder, dans une structure d'un jeu de PlayStation 1. Donc moi, j'ai vraiment eu du mal avec ça, et ça m'a empêché tout au long de l'aventure de vraiment accrocher à ce propos, et de, en fait, malheureusement, j'ai subi le jeu plus qu'autre chose.
Ouais, bah on peut peut-être commencer par faire des petites focus. Je pense que la chose quand même qui est la plus réussie, entre guillemets, dans le game design, je pense que c'est les combats. Alors ça, bon, c'est l'ADN, hein, vraiment, de Ninja Theory, puisque, comme on le disait, hein, Heavenly Sword, il y avait aussi DMC, donc c'est des gens quand même qui ont une expérience dans la création de jeux d'action, même si on pense tous les trois que c'est pas incroyable. Déjà, je trouve que là où il se démerde bien, c'est quand même dans les animations, dans les impacts et tout. Il y a quand même un peu de il y a une bonne patate dans les feelings de Senua. Il y a quand même des petits combos, il y a quand même une petite profondeur, il y a une parade. Il est aussi possible de ralentir le temps à un moment du jeu, de charger ses coups. On peut quand même récupérer des choses qui vont rajouter des petites strates de complexité à ce combat. Et je trouve que dans l'ensemble, ils font le café. C'est une expression tirée, une expression très lointaine, ils font le café. Mais mon problème, en tout cas, serait beaucoup plus sur l'ennemi design, qui, lui, me semble déjà extrêmement répétitif et pas très, très, très inspiré. Bon, voilà, il y a quoi ? Il y a 4 ennemis dans le jeu, on va dire, si on rajoute les boss.
Ouais. T'as un ennemi global que tu combats tout le temps, qui change un petit peu, qui a toujours le même comportement. C'est-à-dire qu'en fait, il va toujours faire son attaque qui part de très, très haut. Et donc, t'as toujours une fenêtre de à peu près 83 secondes pendant laquelle tu peux la parer. Et ensuite, tu vas le contrer. Et en plus de ça, je pense qu'à un moment donné, je serais très curieux de le savoir, il faudrait que je vérifie dans les différents journaux qu'ils avaient publiés, mais les voix qui nous aident pour nous dire à gauche, à droite, etc., je me demande si c'est pas un reliquat d'un moment où il fallait nous-mêmes gérer la caméra, parce qu'en fait dans le jeu final Hellblade, on gère pas la caméra. Si un ennemi nous attaque par derrière, la caméra se retourne automatiquement dès qu'on a tué un ennemi. En fait, on n'a rien d'autre à faire que
Il y a un auto-lock un peu les ennemis comme ça. Ouais, tout à fait.
Ce qui est pas plus mal, parce qu'en plus il n'y a pas de tuto. À aucun moment donné le jeu va t'expliquer les touches qu'il faut utiliser pour faire une action, donc ça c'est un peu ça peut être un peu dérangeant, et on y reviendra après quand on parlera de l'histoire du permadeath. Avec ce jeu là ça peut effectivement rentrer en conflit avec des infos qu'on me donne, mais en tout cas au niveau des combats, la mise en scène, en fait, c'est un peu moi ça m'a fait penser à des jeux, tu vois, qui veulent, comme tu dis, l'hyperréalisme, genre Rise, Son of Rome ou The Order. Des jeux comme ça qui sont limités par leur propre hyperréalisme parce que ça coûte trop cher en fait de faire des animations de combat avec des chorégraphie de fifou, et donc ils font des combats qui sont finalement très statiques. On se déplace à peine, on a notre esquive qui est un peu magique et qui permet de faire le combo.
Il y a une roulade.
Mais comme ils ont une actrice, en fait, ils sont aussi limités, tu vois, dans la palette d'actions qu'ils peuvent faire, parce que sinon ça va donner quelque chose qui va trop trancher avec la réalité, et ça va donner un côté peut-être trop fantastique qui va casser en fait leur intention de réalisme au départ.
Oui, c'est ça. Moi les combats m'ont pas posé particulièrement de problème parce que je les ai vraiment pris pour un truc esthétique. Tu vois, je me suis dit, c'est bon, je vais appuyer sur les boutons, ça va être joli, et je vais pas m'impliquer plus que ça. J'ai pas particulièrement peur de perdre ou quoi, ou je vais pas essayer de varier les combos. Donc ouais, si on les prend pour cette valeur esthétique, ça va, les combats sont effectivement plutôt réussis, mais comme vous l'avez déjà dit, le gros souci,
surtout avec les boss.
Oui, surtout avec les boss.
Les boss sont très chouettes, il y a vraiment des mises en scène qui sont impressionnantes avec tout le feu. Je me souviens aussi de ce boss là où t'as plein de corps qui sont en train de bouger un peu autour de l'arène. Bon, il y a quand même une mise en scène qui est forte et comme tu le dis, qui donne à ces combats un caractère esthétique quand même plaisant.
Ouais. Mais comme vous l'avez dit, le gros souci, ça va être la répétitivité, et là où on touche un petit peu le fond de ça, voire même de ce qu'on peut appeler du remplissage, ça va être avec les fameux puzzles avec les runes, hein, ou plus largement les énigmes visuelles, parce qu'on va parfois, il faut voir un pont ou un escalier, enfin il y a quelque chose comme ça
à travers un portail, voilà, ou des trucs comme ça. Il y a aussi ce genre de choses,
c'est ça, il y a des portes par lesquelles on peut passer qui vont changer un petit peu le monde, ou enlever des murs ou des portes, ou à un moment t'as des espèces de masques aussi par lesquels faut passer. Et les runes, c'est vraiment, j'ai regardé sur internet plus simplement, parce que sinon ça allait être compliqué. Il y a 17 fois où il faut trouver entre une et trois runes. Ça veut dire que globalement il y en a priori au moins une trentaine de runes où il va falloir, donc pour le rappeler ou pour l'expliquer, c'est qu'il y a des moments où il faut trouver, pour ouvrir une porte, il faut trouver une rune, on va dire, en forme de à peu près de R, et une rune en forme de à peu près de D, on va dire. Et en fait, dans le décor, en fonction de la perspective, si on arrive à aligner, je sais pas, une branche avec un poteau qui se situe 30 mètres plus loin, et ben ça va former ce fameux P. Et voilà, il faut chercher la fameuse lettre dans le décor, se placer, et il faudra le faire beaucoup de fois, et souvent. Et ça, c'est vrai que il y a un côté, le mot prototype étudiant a été lâché, effectivement, et ça, c'est effectivement le genre de petite idée, tu te dis, pourquoi pas, ça pourrait faire un puzzle de Resident Evil, comme on peut en voir, je sais pas, dans Resident Evil 7, par exemple. Mais de là à en faire des heures de jeu dessus, c'est vrai que moi, ça m'a extrêmement lassé.
Et surtout que ça rentre un peu en conflit avec une partie du propos, c'est-à-dire que moi ce qui m'avait gêné avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu vois les ficelles qui sont tellement grosses que bah, dès que tu arrives dans une arène, tu repères tout de suite qu'il va y avoir un R ou un P, parce que tu vois, il y a des arbres, et d'un coup, il y a des arbres, ils sont mis en croix, et il y en a un, il est horizontal, enfin tu te dis, ok, là-bas, il se passe quelque chose, donc tu le vois en avance, et surtout, c'est une mise en scène d'un des troubles de Senua qui est tellement présent que tu te dis, mais enfin... Ça m'a vraiment gêné, c'est-à-dire qu'en gros, je me dis, mais attends, en gros, ils utilisent son pouvoir de voir des trucs dans le décor, c'est ce qui lui permet d'ouvrir des portes, mais techniquement, c'est un trouble qu'elle a, enfin, voilà. En gros, moi, ça m'a créé une espèce de décalage, j'arrive pas forcément à mettre des mots dessus, mais le fait que ça soit aussi présent et aussi régulier, je trouvais ça gênant parce que ça cassait le rythme du jeu et ça diminuait un peu la force du propos qui marchait au demeurant dans les cinématiques, quoi.
Moi, mon gros problème, alors je l'ai déjà dit ailleurs, mais je trouve que c'est médiocre en termes de game design, j'ai pas d'autres mots là-dessus. Je trouve que vraiment, quand tu penses en termes mécaniques, en termes de nuances, de profondeur, on est à zéro. C'est, il faut trouver un endroit, le point dans la zone, et te mettre au bon endroit et trouver le bon truc. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de mobilisation, de compétences ou de quoi que ce soit, c'est juste trouve Charlie. Enfin, c'est, voilà, c'est où est Charlie. Alors, où est Charlie, c'est rigolo parce qu'il y a plein de trucs à trouver et tout, c'est marrant. Mais là, dans le jeu, non seulement c'est pas bien la première fois, et ce n'est pas bien la deuxième, et ce ne sera clairement pas bien les 15, malheureusement, qui vont suivre. Et en fait, je suis assez... pas connu, mais je peste souvent contre le remplissage dans les jeux AAA, le fait d'utiliser les camps de bandits, de répéter des choses un peu ad nauseam qui sont pas très intéressantes juste pour nous alourdir la durée du jeu, et là je trouve qu'on a un jeu qui fait 6 heures, donc qui tombe pour moi dans les bonnes, dans les bons plans, et pourtant qui me paraît terriblement maigre en fait, et terriblement rempli de trucs comme ça. Il y a trop de combats, il y a trop de puzzles, il y a trop de tout en fait. Tu te dis, c'est un jeu qui dure 6 mais qui devrait en durer 3, parce qu'en termes de propos, moi je veux bien, on m'a expliqué genre les runes, oui en fait c'est quand tu as des troubles mentaux, tu vois des choses dans le décor, et je fais pourquoi pas, tu vois, mais je l'aurais compris, je pense, en 3 séquences plutôt qu'en 17.
Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas toujours un lien très clair entre ce qu'elle est censée vivre et ce qu'elle est censée ressentir et l'intérêt ludique du truc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, ça devient juste une excuse pour nous empêcher de progresser et nous dire, bah voilà, il y a 3 portes, il y a 3 runes, démerde-toi tout à l'heure, tu sais ce que tu dois faire. Et ça, c'est vrai que... Bah, c'est gênant en soi, ces puzzles, et c'est d'autant plus gênant que la structure elle-même du jeu est également médiocre, en fait, puisque bah, c'est vraiment...
Très marqué, ouais.
Comme je disais, c'est tout cousu de fil blanc. T'as un couloir, d'un coup, il y a une salle ronde, et tu te dis, ah, bah, va y avoir des ennemis. Et là, comme par hasard, il y a des ennemis. Ensuite, tu vois 2 portes, et là, t'as Druid qui te dit, il y a 2 portes, et il y a 2 runes, il faut aller chercher les 2 runes, et t'es là... Pff. Et c'est ça tout le temps, tu vois, c'est vraiment, moi, la séquence du jeu où j'en pouvais plus, c'est la séquence de l'île où tu dois aller parler à des stèles, enfin, tu dois te concentrer sur différentes stèles, les stèles en carta, comme on disait, ou stèles Wikipédia, comme on avait dit pendant la préparation, où tu arrives, tu écoutes le dialogue, tu passes à une autre stèle, des fois, il y a un combat, des fois, il n'y a pas de combat, et en fait, tu te dis, mais... Le souci de ce jeu, c'est qu'il avait des choses à raconter, il avait des choses à raconter sous une forme plus cinématographique, mais il a oublié l'aspect ludique, c'est-à-dire qu'il a oublié d'essayer de faire converger ce qu'il essaye de faire avec ce qu'il essaye de nous faire vivre. Ce qu'il nous fait faire dans le jeu et ce qu'il veut nous faire ressentir, c'est deux choses qui s'opposent, parce qu'au bout d'un moment, on en a juste marre, en fait. Parce que cette structure, vraiment, à la Tomb Raider, vraiment old school, à base de portes, puzzles, leviers, machin, bidule... Tu lances le jeu si t'as déjà joué à 2 ou 3 jeux vidéo.
Ouais. C'est vraiment du fonctionnel assez. J'ai l'impression, faut pas avoir trop joué aux jeux vidéo pour enfin voilà, en termes de les couloirs. Pour moi, c'est ça un couloir en fait de jeux vidéo, mais vraiment au sens péjoratif du terme, où tu vois tout venir parce que la structure, bah tu la vois avec tes yeux, tu fais bah voilà, faut que je marche là et. Et il va pas y avoir de verticalité, de choses, de je sais pas de surprise, en fait. Il n'y a pas de surprise dans ce jeu. Le jeu ne surprend jamais. On sait toujours, effectivement, rune, couloir. Et pour moi, ça ne peut pas passer. Et ça ne peut pas passer d'autant plus parce que, comme je l'expliquais, ce truc très oppressant, moi, mon cerveau, il n'aime pas. Donc, mon cerveau, il a fait « Ok, bah, tu vas jouer en mode un peu chirurgical parce que moi, ce n'est pas un jeu auquel j'avais envie de jouer parce que bah, ça, l'horreur psychologique, ça ne me branche pas. Je vais la subir. » Et forcément, mon cerveau va dire, bah ok, tu te concentres sur le game design. Et le problème, c'est que bah,
y a rien à se
en
mettre
se concentrant
dedans,
sur le game design, il y a rien à prendre. Donc c'est vrai que ça a été, moi je l'ai vraiment, moi c'est un jeu qui m'a irrité vraiment tout au long de son expérience. Et Et ouais, quoi, c'est dur, quoi. C'est des trucs de runes, c'est terriblement long. C'est un jeu qui est terriblement long.
Clairement, c'est un des épisodes qui aurait été le plus difficile à préparer pour nous, en fait. Tu vois, c'est assez rigolo, parce que moi, j'étais très énervé à l'époque de Détroit, qui est un jeu que je déteste de toutes mes fibres. Mais en fait, Senua nous a... Hellblade nous a posé plus de problèmes, parce qu'on s'est retrouvé très rapidement à se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut dire, à part que c'est nul, la partie design du jeu, tu vois. On s'est vraiment retrouvé à se dire, mais en fait, on peut pas dire quelque chose, parce que le jeu ne cherche pas à exploiter les codes du jeu vidéo, ce qu'on aime bien nous d'habitude décrypter chacun de notre côté ou même tous ensemble dans Fin du Game. On aime bien ça, c'est le jeu vidéo moderne, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est vraiment le moment où on a commencé à voir des choses où ils essayaient de faire converger du sens avec des actions de gameplay, et à aucun moment donné Hellblade ne va faire ça. C'est-à-dire que c'est assez surprenant, parce qu'il y avait déjà en fait des jeux comme, tu vois, ici tout le temps Gone Home, ici tout le temps des Walking Simulator, donc des jeux qui, avec très peu d'action, très peu d'interaction, très peu de gameplay, arrivent à dire des choses. Il y en avait déjà, donc ils avaient des exemples sur lesquels s'appuyer, et eux, ils ont fait le choix de partir sur une structure vraiment archaïque. J'ai vraiment pas d'autres mots. Pour moi, c'est des jeux PlayStation, en fait, dans le mauvais sens du terme, quoi, tu vois, de ce truc-là, avec le puzzle. Alors, il faut grimper, ensuite, il faut, tu vois, limite, s'il fallait pousser des caisses et les mettre sur des boutons pressoirs, j'aurais pas été choqué, parce que c'est ce niveau-là de non-réflexion du jeu vidéo, tu vois.
Mais justement, il y aurait, pour moi, enfin, j'ai joué à Ico récemment, donc caisse et levier, on est pas mal là-dedans, mais il y a tu dois analyser ton environnement et faire, et utiliser les choses qu'on te donne, quoi. Là, c'est trouve la chose dans le décor, et c'est le niveau zéro du jeu, à mon sens, quoi.
Ouais, mais en fait, t'es pas engagé, au sens ludique, tu vois, quoi. T'es pas engagé avec le personnage, alors qu'en fait, ils essayent constamment de te faire forcer à avoir de l'empathie pour Senua, mais dès que tu reprends le contrôle du bonhomme, bah en fait, il se passe rien, t'as aucun lien avec elle, malheureusement, dans les contrôles jeux vidéo.
Et juste pour terminer là-dessus, j'ai pas envie non plus qu'on passe 3 heures à tracher le jeu. Vraiment, c'est pas un plaisir, hein, qu'on prend là-dessus. Mais en fait, comme toutes leurs thématiques, elles transpirent, mais énormément. Elles sont très frontales. La maladie mentale, les troubles, Senua, c'est des choses qui sont là par les visuels, par l'esthétique et tout. Donc c'est très in your face. Mais ce n'est pas en filigrane des mécaniques qu'on va te faire jouer. Alors encore une fois, je veux bien les runes et compagnie, mais les combats, non. Les trucs où va appuyer sur la stèle, ça brûle, ressort. Enfin, et d'habitude, je pense, ce que tu mets le doigt dessus, c'est ce qu'on aime bien dans Fin du Game, ce qu'on aime bien tous les trois, c'est justement quand on va pouvoir deviner, quand on va pouvoir mettre en lien un peu des mécaniques avec des thématiques, et qu'on va, ça va enrichir en fait notre lecture du jeu. Ici, le jeu, j'ai juste besoin de lire une critique et je sais déjà ce qu'il me raconte en fait. J'ai pas besoin vraiment d'aller jouer. Son game design n'enrichit pas ma compréhension de ces thématiques. Et voilà, je peux pas. C'est quelque chose que je valorise d'habitude, mais là, forcément, je ne le trouve pas dans ce jeu-là, donc ça peut pas passer pour moi. Mais encore une fois, c'est ma sensibilité personnelle, et voilà.
Après, il reste quand même l'ambiance et tout. On parlait du sound design, des effets visuels. Bon, ça, c'est quand même quelque chose que tu peux vivre et que tu vas voir. Mais effectivement, sur le plan mécanique, c'est beaucoup plus léger. Il y a une chose quand même dont il faut parler, c'est la fameuse permadeath qu'on avait évoqué au début, où donc on nous dit que Senua a une sorte de marque noire au niveau de la main, et à chaque fois qu'on meurt, elle s'étend, et au moment où elle atteindra notre tête, on perd notre progression. Je crois que c'est vraiment le terme qui est employé.
C'est un message du jeu, hein, que le jeu nous donne à l'entrée du jeu.
Oui, c'est
hein,
pas une voix ou quoi, c'est vraiment, c'est vraiment écrit sur
l'écran. C'est les développeurs qui nous préviennent.
Ouais, il n'y a pas de tuto, mais ça, c'est écrit sur l'écran.
Ouais.
Et donc ça, c'est une volonté, la volonté c'était de créer une espèce d'anxiété, d'épée de Damoclès en fait au-dessus de la personne, et ça c'était vraiment, ça a marché sur certaines personnes, ça a été complètement raté par d'autres, vraiment il y a eu des retours différents. Et du coup, ouais, l'idée était intéressante, mais parmi les ressentis qu'il y a eu, t'as des personnes qui ont arrêté de jouer au moment où elles sentaient qu'elles allaient mourir, genre elles ont quitté, elles ont rechargé la partie d'avant. Mais de toute façon, c'est ça qui est compliqué quand on parle d'un jeu qui est censé nous faire ressentir des choses qu'on ne ressent jamais, ou alors des émotions un petit peu vagues du type oppression, frustration. C'est que une personne qui a été frustrée par ça, peut-être que les développeurs diront « oui, mais c'est ça qu'on voulait faire ressentir ». Mais à côté de ça, t'as d'autres personnes qui vont être plutôt lassées, qui vont... Disons que j'ai du mal à vraiment dire à quel point ça peut être une réussite ou pas, cette chose, tellement ça a été pris différemment.
Surtout que ce n'était pas vrai. ouais, surtout que ce n'était pas
c'est
vrai.
Ça, en fait,
c'est
le
ça qui est important à préciser.
Après ça, moi, je suis pas contre le fait de mentir aux joueurs quand il s'agit de leur faire ressentir quelque chose. Hein. C'est une des bases du jeu vidéo quand même. Mais bon, c'est vrai que là, c'est très frontal. C'est quand même un mensonge. Là, clairement, on n'est pas sur du non-dit ou de l'illusion. C'est vrai que là, on est sur du mensonge.
Game design caché, c'est pas ça. Voilà, c'est un mensonge pour te mettre dans un état d'esprit qui n'est pas vrai dès le départ. Donc.
Et pour moi, c'est vraiment qui tout double. Parce qu'en fait, mentir aux gens en disant attention, si vous faites ci, il va se passer ça. Bon, que ça soit vrai ou pas, tu vois, c'est un peu les questions où tu dois dire oui ou non dans les JRPG japonais. Si tu dis non, on te repose la question jusqu'à ce que tu dises oui. Bon, voilà. Là, il y a des petits mensonges comme ça qui n'ont pas vraiment de conséquences. Là, on te dit attention, tu vas perdre ta progression. Alors, ils ont essayé de s'en défendre dans différentes interviews en disant oui, mais le choix des mots faisait que c'est les gens qui ont interprété que c'était le permadeath, machin bidule. Bon. Ça, c'est de l'excuse un peu bullshit, mais le fait est qu'ils ont voulu faire ça. Moi, ce qui me pose problème avec cette idée-là, c'est qu'en fait, c'est vraiment quitte tout, parce qu'à à l'instant où tu te rends compte que c'est faux, tu peux plus leur faire confiance. Et tu peux plus croire ce qu'ils essayent de te dire, et tu vas juste leur en vouloir, parce que, je sais pas, tu vois, moi, si on me disait, si tu es sage, il y a quelqu'un barbu qui va mettre des cadeaux sous ton sapin le 25 décembre, et qu'en fait, c'est pas vrai, c'est ton papa et ta maman qui font ça, moi, je leur en ai voulu pendant quelques temps, tu vois, parce que j'y avais cru à cette connerie de Père Noël. Non, mais... Oui, on spoil le Père Noël dans la fin du game. On a peur de rien, on va jusqu'au bout. Mais voilà, moi, ça me gêne parce que comme c'est un truc qui peut vraiment bloquer les gens et les forcer, tu vois, à jouer d'une certaine manière, alors qu'en fait, c'est faux, je trouve que ça détruit un peu leurs propos. Parce que ça veut dire que s'ils font ça, il y a peut-être d'autres choses qui sont pareilles.
Surtout que la nature même de leur jeu, qui est extrêmement linéaire, extrêmement narratif, trahit complètement le mensonge. Parce que tu vas pas me faire croire que tu vas sciemment décider de faire recommencer tout quelque chose qui n'a aucun intérêt à être vraiment recommencé, qui n'a pas une rejouabilité, c'est pas du build, des trucs comme ça. On est très très loin des roguelites en fait, tu vas pas avoir une run différente et compagnie, donc ça n'a aucun intérêt de recommencer ces nuages. Pire si tu l'as pas trop aimé, mais t'imagines, tu meurs au dernier boss et tu dois tout retaper. Enfin, ça n'a pas de sens en fait de faire ce mensonge-là, sachant qu'on a un jeu qui est extrêmement linéaire et narratif. Pour moi, ça marche pas. En fait,
c'est ça le souci que j'ai, parce que fondamentalement, comme j'ai dit, j'ai pas de souci avec le fait de mentir même explicitement aux personnes, mais comme c'est pas réussi ou que c'est un peu ambigu. Si ton mensonge il marche pas, c'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée ce bluff comme il le qualifie.
Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est un truc qui a peut-être été rajouté un peu, tu vois, en désespoir de cause pour essayer de pousser les gens à vraiment ressentir encore plus d'oppression, encore plus de sensations de danger et de risque. Mais comme ça s'appuie sur un mensonge, ça casse tout l'effet, quoi.
Je pense que c'est un petit détail, à mon avis, peut-être qui a pris plus de proportions que ça ne devait en prendre pour eux, parce que forcément, les jeux, ils sortent, les gens parlent des jeux et de quelque chose qui est dès le début, forcément, ça va faire parler. Donc, je pense que...
Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que, encore une fois, le peu d'informations extra-digétiques qu'on a dans le jeu, c'est les noms des gens qui ont fait le jeu, le nom des médecins pendant l'intro où elle est sur son petit canoë là, avant d'arriver sur l'île, on voit les noms des gens qui ont bossé sur le jeu, et la seule autre information qu'on voit après, c'est ça. C'est attention, si tu meurs trop, ça sera définitif. Donc, comme il n'y a pas de tuto, qu'il n'y a pas d'autre chose, en fait, on peut se raccrocher qu'à ça. Donc, ce truc-là, c'est comme le nez au milieu de la figure. Tu ne vois que ça et tu penses qu'à ça après.
Voilà, je pense qu'on a terminé sur le game design. On ne va pas forcément s'étendre là-dessus. Comme dit, l'idée, ce n'est pas forcément de trasher le jeu. Hein, mais on a tous passé pas forcément un très bon moment dessus. Même si, encore une fois, je pense qu'on reconnaît largement les qualités qui sont là en fait, du jeu, mais qui sont des qualités visuelles, qui sont des qualités sonores, qui sont des qualités d'ambiance. Et qui, malheureusement, sont peut-être faits, ont peut-être été faits au détriment d'un vrai travail sur la structure, sur les combats, sur les puzzles, pour ajouter vraiment des strates qui allaient quand même donner un peu d'intérêt ludique dans ce jeu. Peut-être que ça se tient, hein, qu'on n'est pas là pour prendre du plaisir de jeu, ça je veux bien l'entendre. Moi, il y a plein de jeux que j'aime beaucoup et dans lesquels on passe pas forcément un très bon moment. Mais là, il manque, à mon sens, une profondeur essentielle dans un jeu vidéo, quand même, malgré toute cette envergure. Et Je peux difficilement,
Mais c'est, en fait, c'était compliqué pour nous parce que, effectivement, d'habitude, on essaye de se raccrocher comme ça à des éléments qu'on ait aimé ou pas le jeu. C'est pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est pour des sensibilités, du bon, bah, moi, ce sujet-là, il m'intéresse pas, donc ça me parle pas ou quoi que ce soit. Là, c'est que on a rien auquel se raccrocher. Enfin, vraiment, tu vois, c'est un château de sable, le jeu, où, bah, dès que tu commences à gratouiller un peu, ça s'effondre parce qu'il n'y a pas suffisamment de fondation de gameplay, de level design, de structure ludique pour qu'on puisse vraiment en parler. Donc, c'est ça qui nous avait posé problème. On a beaucoup réfléchi à comment essayer d'en parler et malheureusement on s'est dit bon bah il faut y aller de manière un peu frontale, on va pas vous mentir, nous on va vous dire bah non on n'a pas aimé. D'habitude on parle pas forcément haut à ce point je pense de nos ressentis perso, mais là ça nous a vraiment gêné tous les trois, donc c'est un truc sur lequel on avait du mal à éviter d'en parler quoi.
Ouais, mais de toute façon ça nous empêche pas, comme on l'a dit, de comprendre pourquoi il a fonctionné auprès de certaines personnes.
Ah bah moi je comprends toujours pas hein. Ah là. Non mais je préfère le dire, c'est-à-dire que moi c'est vraiment toujours un mystère pour moi ce jeu.
Parce que les qualités qu'on a citées en fait sont des choses dans lesquelles tu peux être absorbé, et les défauts qu'on a cités ce sont des choses que tu peux ne pas voir. En fait c'est ce côté, est-ce que tu vois les grosses ficelles ou est-ce que tu t'en fous, bah voilà.
Oui, ou ne pas y être sensible, oui, au point que ça te sorte du jeu. En fait je pense que justement si tu accroches, si tu rentres vraiment dans l'esprit de Senua, moi j'ai pas voulu le faire parce que je sentais que ça allait me chambouler et j'avais pas forcément le mood pour ça, mais je pense que je l'aurais jamais honnêtement parce que c'est pas le genre de choses que j'ai envie de vivre. Bah voilà, après c'est, encore une fois c'est une question de sensibilité, de ce que tu vas rechercher dans un jeu et voilà. Mais surtout que quoi qu'on en dise nous fin du game, on n'est pas grand chose à l'échelle malgré notre influence sur le paysage vidéoludique.
On peut dévier le courant mais on ne peut pas faire barrage.
On peut pas. Exactement, bah, c'est trop tard en tout cas, puisque bah, le jeu il a été bien reçu, il s'est bien vendu, et surtout bah, il a été récupéré par Microsoft, puisque malgré l'exclusivité temporaire de Sony, en fait, dès que l'exclusivité s'est terminée, Microsoft ont annoncé qu'ils avaient acheté, qu'ils avaient acquis Ninja Theory. Alors bon, c'est un petit peu paradoxal, vu tous les discours sur l'indépendance qu'ils avaient pu mettre en avant pendant la communication autour du jeu. Mais bon, je vais pas leur jeter la pierre là-dessus, hein, faut être réaliste, c'est aussi difficile de survivre dans cette industrie, et quand t'as un des grands constructeurs qui vient taper à ta porte pour te faire une offre, tu y réfléchis quand même, à mon avis, assez sérieusement. Et du coup, voilà, Ninja Theory qui fait partie désormais des Microsoft Studios, aux côtés de Double Fine, dont on parlait, aux côtés de Rare et aux côtés de 343 Industries. Bref, des gens qui vont fournir à Microsoft des exclusivités pour ses consoles, mais aussi son Game Pass, et notamment bah, Hellblade 2. Il y a un sous-titre là-dessus, je l'ai pas noté.
Senua Saga.
Ah. C'est Nuas Saga. Alors ouais. Maintenant, c'est voilà, elle a sacrifié. Elle
va partir très très loin. On reste dans le jargon nordique, hein, avec le côté saga. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant avec la situation de Ninja Theory, indépendamment du jeu, c'est que leur objectif initial, c'était de prouver qu'on pouvait faire un jeu avec ses propres moyens et de manière indépendante, etc. Ils y ont réussi, mais surtout, finalement, Hellblade, c'est devenu leur marque de fabrique. C'est-à-dire qu'il leur manquait, tu vois, on le disait tout à l'heure, il leur manquait ce jeu qui a peut-être marqué les gens, etc. Et moi, je pense que Hellblade, en fait, bah voilà, maintenant, Hellblade, c'est le jeu Ninja Theory, et c'est le jeu sur lequel ils vont surfer. Et ils l'ont déjà dit que l'équipe de Hellblade 2 était a priori le double de gens que ce qu'ils avaient sur le premier. Alors, je pense pas que ça va du coup devenir un The Last of Us-like avec des ambitions aussi folles. Au contraire, je pense que Microsoft a tout intérêt à garder, à nourrir un petit peu, tu vois, ce côté. Double A, un peu indé, un peu avec une vision d'auteur un peu marquée, parce que justement ça va permettre au jeu et à la suite de garder son identité, parce que si ça devenait un truc lissé, vu les thématiques, vu le personnage qu'on incarne, ça marcherait plus, parce que là clairement ça, tu vois, si en plus nous déjà on avait du mal avec la partie game design, si en plus ils cassent la partie cinématographique et traitement de la folie et des troubles mentaux, on n'y arrive pas,
hein. S'ils nous rajoutent tous les tropes du game design moderne, triple A, action RPG, open world, non.
Senua va mener des enquêtes, tu sais, et du coup, elle va parler, elle va regarder à travers les murs. Ensuite, elle va avoir un oiseau qui la suit en permanence, et elle va pouvoir utiliser l'oiseau comme GPS.
A priori, ça ne deviendra pas ça, puisqu'ils ont fait une vidéo sur leur chaîne YouTube, puisqu'ils continuent quand même de communiquer. Alors, je ne sais pas si on verra des protos de Hellblade 2, mais ils ont expliqué un petit peu leur démarche derrière le fait de rejoindre la team Microsoft. Et ils disaient qu'en gros, Microsoft les a approchés pour leur dire hey, ça vous dirait de faire la même chose, mais avec plus de moyens. Donc, en tout cas, ils garantissent qu'ils conservent un petit peu cette indépendance créative. On verra ce qu'il en est. Mais c'est intéressant de souligner qu'ils ont été rachetés avec plein d'autres studios, en fait. C'était un moment où Microsoft a fait un rachat de plein de studios qui font des jeux double A, on peut le dire. Il y avait Double Fine, comme ça a été dit, mais il y avait aussi Obsidian, je sais plus, le studio derrière State of Decay, et ensuite un ou deux autres studios.
Je crois qu'il y en a qui s'appelle Dead Labs ou quelque chose comme ça. Je les connais pas tous, les studios
celui,
Microsoft.
Celui derrière We Happy Few aussi. Donc bref, que des jeux...
Compulsion Games, celui-là il s'appelle.
C'est ça, et du coup, que des jeux qui ne sont pas des triple A, hein, qui sont à peu près du même gabarit que Hellblade, donc on voit qu'il y a quand même eu cette stratégie derrière, et c'est intéressant de voir que là, on se demandait si c'était un pari réussi, Hellblade, bah on voit quand même, je dis pas qu'ils ont créé le double A moderne ou quoi, mais ils ont montré quand même, ils ont participé à montrer que c'était un marché qui était complètement possible, qu'il y avait des gens qui voulaient ce genre de production.
Sachant que, en fait, on le savait déjà, mais parce que bah, des jeux qui existaient comme ça, avec une production value un peu supérieure, tu vois, entre-temps, il y a eu des Life is Strange qui sont sortis, il y a eu d'autres jeux comme ça. Donc on savait que c'était possible et qu'il y avait un marché de jeux peut-être un peu moins coûteux. Mais ce qui est intéressant avec Ninja Theory, c'est qu'ils ont tellement mis en avant cette stratégie-là, ils l'ont vraiment... tu vois, aux yeux du grand public, ils ont réussi quelque part à faire en sorte que c'était eux, leur idée de faire comme ça, qu'aujourd'hui on les associe à ça, et forcément le rachat par Microsoft, ça soulevait plein de questions. Je trouve qu'ils ont été plutôt clairs sur l'objectif derrière. De toute façon, je veux dire, on comprend très bien la nécessité de pouvoir continuer de payer les salaires de toutes ces personnes-là. Ils continuent de bosser sur d'autres jeux en parallèle, hein, parce que c'est vrai que il y a eu, alors c'est ça aussi un des trucs pervers de leur communication, c'est qu'une partie des gens pensaient que Ninja Theory c'était 15 personnes et c'était tout, alors qu'en réalité non, c'est une petite unité au sein d'une grosse entreprise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la partie Hellblade, je pense qu'ils vont la continuer avec cette espèce de liberté, j'espère, parce que sinon, bah, comme dit, ils vont risquer de foirer leur virage entre le 1 et le 2. Quoi.
Oui, parce que Hellblade c'est un succès pour le nombre de personnes qui ont bossé dessus, mais il suffit probablement pas à financer tout le reste du studio, parce qu'on rappelle, ils étaient une centaine en tout, et maximum 20, une vingtaine au pic du projet Hellblade, donc effectivement, c'est un succès, mais pas pour tout le monde, quoi. Bah,
il se lie vraiment au destin du Game Pass et de la stratégie de Microsoft, hein. C'est vraiment ça qui dictera un petit peu la suite, en tout cas leur avenir proche, parce que bon, malgré tout, c'est ça le Game Pass, hein. Encore une fois, la stratégie de Microsoft, elle est logique d'acquérir des studios qui font des projets d'une moins grosse envergure, parce que justement, des The Last of Us, des Maxi Monstres comme ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas rentabilisable via des abonnements où t'en fais juste un et tu sens rien à côté, quoi. Et tu n'en sors qu'un par an. Et donc, c'est logique maintenant, voilà. Est-ce que ça fonctionnera? Est-ce que ce sera rentable? Est-ce que ça attirera assez de monde? C'est plein de questions qu'on pourra se poser. Mais, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas nier que Hellblade, c'est une des figures, justement, de ce Game Pass. Et voilà, encore une fois, je pense qu'ils ont bien compris que c'est ce genre de micro-public, en fait, de petite sphère de public, qui n'est pas non plus de la niche tout petite, mais qui va un peu être mi-niche, mi-mainstream. Et je pense que ça peut marcher pour eux. Mais voilà, à voir. Personnellement, je n'ai pas forcément envie de jouer au second. Je le dis très honnêtement, je pense que Hellblade, c'est un jeu que voilà, je vais mettre dans un coin. C'est fait pour fin du game, merci, au revoir. Mais voilà, on verra pour eux. Je leur souhaite quand même néanmoins de réussir et de continuer à pouvoir faire plein de choses. Surtout qu'encore une fois, bah, le jeu a plu à plein de personnes, donc voilà.
Et du coup, bah, c'était un peu notre façon comme ça de parler de Hellblade. Comme je le disais, ça nous a vraiment posé pas mal de soucis. Donc on attend vos retours là-dessus, parce qu'on a essayé vraiment de faire la part des choses pour qu'on arrive malgré tout à comprendre d'une certaine manière ce qui avait bien fonctionné. On attendra du coup d'en savoir un petit peu plus sur Hellblade 2. Alors j'imagine que comme l'épisode va sortir, il va y avoir un trailer dans les semaines qui suivent. Hein, c'est la règle. Enfin, en tout cas, on a envoyé notre mail à Microsoft. Ils nous ont dit oui, ok, vu. Mais voilà, bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés. Merci encore une fois à Fœur d'édition qui sponsorise l'émission à chaque fois. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent sur le Patreon. Si vous avez aimé Hellblade, restez, s'il vous plaît. On aimera d'autres jeux.
Désolé, promis, il y aura d'autres jeux qu'on aime bien et vous aussi.
Le prochain palier, on dit que du bien d'Hellblade, si vous voulez.
On chante des chansons Disney en disant du blind Hellblade. Bah, ça y est, on est mal barré. Non, mais voilà, bah, merci beaucoup en tout cas. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Le nom du jeu, il est déjà dispo. Donc ça, vous le savez, vous nous rejoignez sur le Discord. Comme ça, ça vous laisse un peu de temps pour jouer. Et en plus, on continue d'annoncer des jeux dont on parlera seulement l'année prochaine, en 2021. Et je sais que c'est du lourd qui va arriver dans pas longtemps. Donc voilà, rejoignez-nous sur le Discord et on vous dit à très bientôt. Salut.
Ciao.
Ciao.